Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un sujet fascinant, les entreprises familiales au Japon. Est-ce que ce modèle, parfois vu comme un peu ancien, est toujours pertinent? On va se baser sur une étude assez poussée qui compare justement ces entreprises familiales, les EF, et les non familiales, les ENF.
Oui, une étude qui utilise des données de 1998 et 2003. C'est intéressant parce que ça couvre différentes conjonctures économiques.
Exactement. Et puis le Japon, c'est quand même le pays de Kongo Gumi, cette entreprise de construction fondée en 578. Une histoire incroyable.
Absolument. Ça donne une perspective. Mais l'étude, elle, est très actuelle dans son approche méthodologique.
Comment ça ?
Eh bien, elle ne compare pas n'importe quoi. Elle apparie chaque entreprise familiale avec une non familiale de même taille et du même secteur.
Ah, d'accord. Pour vraiment isoler l'effet familial, quoi.
C'est ça, pour voir si, toute chose égale par ailleurs, le fait d'être familial change quelque chose.
Intéressant. Alors, premier résultat clé, est-ce que ça tient la route, ce modèle familial, niveau performance ?
Alors oui, et c'est assez net. Surtout, et c'est important, pour les entreprises où la famille a ce qu'on appelle un contrôle fort.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'elles détiennent une part significative du capital et qu'elle est aussi aux commandes, à la direction.
D'accord. Et donc ces entreprises-là ?
Eh bien, elles affichent globalement une meilleure performance financière. On regarde le ROA, la rentabilité des actifs, et le ROE, la rentabilité des capitaux propres. Et dans les deux cas, elles font mieux que les non-familiales.
Même en période de crise, comme en 98 ?
Oui, que ce soit en 98 ou en 2003 pendant la reprise, les chiffres sont statistiquement significatifs.
Ah oui, quand même. C'est un peu contre-intuitif, non ? On imagine parfois une gestion moins pro.
On pourrait penser ça, mais l'étude suggère plusieurs explications. D'abord, une gestion peut-être plus économe, une certaine parcimonie, comme dit l'étude.
On fait attention aux dépenses.
Voilà. Ensuite, il y a souvent une vision à plus long terme. L'idée, c'est de préserver l'entreprise pour la transmettre. C'est le patrimoine familial.
D'accord. Et peut-être moins de conflits entre ceux qui possèdent et ceux qui dirigent.
Exactement. C'est ce qu'on appelle les coûts d'agence. Si les propriétaires sont aussi les dirigeants ou si leurs intérêts sont très alignés, ben, ces coûts diminuent.
Logique. Une gestion plus rentable, orienté long terme, est-ce que ça se voit aussi dans leur structure financière ? Plus prudente peut-être ?
Tout à fait. C'est l'autre point marquant. Ces entreprises familiales à contrôle fort ont tendance à moins s'endetter.
Ah oui ?
Leur ratio d'endettement est significativement plus bas. Et elles ont aussi une meilleure liquidité.
La capacité à payer les factures à court terme, c'est ça ?
C'est ça. Les ratios de liquidité générale et réduite sont plus élevés. Ça suggère une certaine aversion au risque.
Le risque de perdre le contrôle, j'imagine, si on s'endette trop.
Probablement. Oui, ne pas vouloir diluer le contrôle familial ou le mettre en péril. Ça les rend financièrement plus solides, plus résilientes aussi.
Mais l'étude, elle ne met pas toutes les entreprises familiales dans le même panier ici. Vous parliez de contrôle fort.
Non, effectivement, et c'est là que ça devient encore plus intéressant. L'étude distingue bien ce cas du contrôle fort qu'elle appelle type B.
D'accord, mais elle examine aussi d'autres cas. Par exemple, la famille est actionnaire majoritaire mais ne dirige pas, ou l'inverse. Elle dirige mais n'est pas l'actionnaire principal. Ce sont les types C et D. Et là, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien là, l'avantage en termes de rentabilité, il s'atténue beaucoup, voire il disparaît, selon les indicateurs et l'année.
Ah, donc le simple fait d'être familial sur le papier, ça ne suffit pas pour expliquer la surperformance.
Exactement. Ce n'est pas magique. Une comparaison directe, toujours à taille et secteur égaux, entre les entreprises à contrôle fort, type B, et celles à contrôle plus faible, type C et D, le confirme.
Et qu'est-ce qu'elle montre, cette comparaison directe ?
Elle montre que le contrôle fort est vraiment associé à la meilleure rentabilité et à cette structure financière plus saine, avec moins de dettes par rapport aux fonds propres.
Donc, c'est vraiment la nature et l'intensité de ce contrôle familial qui font la différence ?
C'est la conclusion qui s'impose, oui. Le comment la famille contrôle est crucial. Bon, alors si on résume.
1.
Au Japon, d'après cette étude, loin d'être dépassée, les entreprises où la famille tient fermement les rênes, non seulement elles rivalisent, mais elles font souvent mieux que les autres. Une gestion plus efficace, une approche financière plus prudente.
C'est bien ça.
Elles semblent plus performantes et plus solides.
Impressionnant.
Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question, une réflexion pour finir peut-être.
Oui.
Si ce contrôle familial fort est un atout si important, comment ces entreprises font-elles pour le maintenir sur le long terme, à travers les générations ?
Le fameux défi de la succession.
Voilà. Tout en restant dynamique, innovante, capable de s'adapter à un monde qui bouge très vite. Trouver cet équilibre, c'est sans doute là leur plus grand challenge pour assurer leur succès durable.